24 janvier 2019, 24 janvier 2020, cela fait exactement une année depuis que Félix Tshisekedi a été investi président de la République démocratique du Congo. Et cela à la suite de la présidentielle de décembre 2018. Quel bilan dressé de l'an 1 de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC? Billy Lutumba en parle avec le professeur Félicien Kabamba, qui est professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Mise en onde Mimi Kindrou, coordination et réalisation Kéline Kouté. Présentation Billy Lutumba, suivez.
Professeur Félicien Kabamba, bonjour.
Bonjour.
L'an 1 de l'alternance, 24 janvier 2020. Après 12 mois, quelle lecture faites-vous de cette alternance politique pacifique, comme on le dit, ici, chez nous, en RDC?
Ça a été un événement très heureux. Un événement que le Congolais attendait depuis longtemps. Et beaucoup de gens n'attendaient pas à voir, à participer durant leur vie à une passation aussi civilisée du pouvoir. Donc ça a été un événement très, très, très heureux. Évidemment, le plus difficile n'est pas la passation du pouvoir, c'est plutôt l'après. Et donc aujourd'hui, on a affaire à un chef de l'État qui n'a pas nécessairement toutes les manettes du pouvoir, mais qui est obligé de composer avec une majorité qu'il a difficile à contrôler. Et donc, aujourd'hui, il est dans une coalition. Et quand on essaye d'écouter les propos tenus par les uns les autres, ce n'est pas une coalition heureuse. C'est une coalition assez difficile à gérer.
Veut dire que la fondation n'a pas été adaptée à cette coalition, parce que c'est comme une maison qu'on construit. Peut-on dire que nous sommes mal partis avec cette coalition?
C'est une coalition qui a été construite en fonction d'un résultat des élections. Mais il ne s'agit pas d'une coalition de vision, une coalition de perspectives identiques. Il s'agit là, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, d'un accident de l'histoire. Et cet accident est difficile aujourd'hui à gérer. Et d'autant plus que aujourd'hui, cette coalition a atteint un paroxysme caractérisé par des déclarations qui vont dans tous les sens. Finalement, il faudra qu'il y ait une personne qui se dise qu'il faut remettre de l'ordre dans la coalition.
Si nous devons faire un pas en arrière, la période de la prestation de serment jusqu'à la sortie du gouvernement, quel bilan faites-vous de cette période-là?
Là, on vous parlait d'une question importante qui est celle du bilan. Pour mieux faire le bilan, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que l'actuel chef de l'État a trouvé comme situation. C'est donc cette anamnèse sur la situation qu'il a trouvée qui permettra de mieux comprendre ce qu'il a réalisé. Et le tout premier chantier du président actuel a été les libertés publiques. Donc, les toutes premières décisions qu'il a prises concernaient les libertés publiques. Et vous savez tous que la République démocratique du Congo était considérée comme un pays de restriction des libertés publiques. Beaucoup d'opposants étaient exilés à l'étranger. Nos prisons étaient devenues des hébergeries des opposants. Et donc, quand il a accédé au pouvoir, les premières mesures qu'il a prises concernaient la décrispation. C'est comme ça qu'on a enregistré le retour de Moïse Katumbi, on a vu Néman Nsemi rentrer, on a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu beaucoup de opposants être libérés de prison. Et donc, les premières mesures, ou le premier chantier du chef de l'État a été, si vous voulez, la décrispation politique et donc le chantier de liberté publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on enregistre un petit recul. Par exemple, quand il a accédé au pouvoir, on a constaté tout de suite que les manifestations étaient autorisées, mais très dernièrement,
On a enregistré des cas de refus de manifestation, notamment à Kinshasa et dans certaines villes. Donc ça, c'est une sorte de recul par rapport à l'élan qu'il avait dès le départ. Alors, le deuxième chantier, qui n'est pas de moindre, c'est, si vous voulez, les chantiers sécuritaires. Je tiens ici à insister sur le fait que la République démocratique du Congo a vécu et vit encore d'ailleurs une situation assez paradoxale, qui est caractérisée par le fait que le gouvernement cohabite avec les milices armées. Et cette cohabitation a duré pendant beaucoup de temps. Si bien que les milices armées se comportent sur les territoires qu'elles contrôlent comme des véritables gouvernements. Et apparemment, ça semblait arranger le gouvernement. Et alors, qu'est-ce que nous voyons comme changement actuellement? Il y a une grande offensive qui ont été menées, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, et de l'Ituri, et même du Maniema, et pour, si vous voulez, démanteler ces milices armées. Donc, tout son regard vers les résultats. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que ces offensives vont déboucher sur le démantèlement complet des milices armées? Est-ce que finalement, l'État va reconquérir tous ces territoires qu'il, si vous voulez, qu'il partageait avec les milices armées? Alors, il y a là des véritables avancées, mais pour lesquelles les résultats sont très attendus.
Vous avez abordé l'aspect sécuritaire. Parlons juste un peu du social du Congolais. Vous faites quelle lecture?
Sur ce plan, il est très attendu. Ça, il faut dire que la plupart des mesures à caractère social ne sont pas encore été prises, n'ont pas encore été prises, mais il y a, dans le programme des 100 jours, vous avez un certain nombre de choses qui y ont été prévues. Elles concernent en particulier la réhabilitation, parce que le programme des 100 jours, c'est un programme de réhabilitation des infrastructures et de construction de nouvelles infrastructures. Alors, si ce programme avait été arrivé jusqu'à son terme, eh bien, ça allait apporter un véritable soulagement dans le sens d'amélioration de la vie des populations congolaises. Mais il faut aussi dire que dans très peu de temps, le chef de l'État s'est donné beaucoup trop de choses, beaucoup trop de priorités. Il a embrassé beaucoup de choses. C'est peut-être là aussi une faiblesse. Il fallait un bon ciblage et il a s'est donné beaucoup trop de priorités à réaliser en peu de temps, alors que le moyen ne répondait pas, donc ne venait pas. Ce qui fait qu'il y a là, de mon point de vue, un problème à la fois de planification, mais aussi un problème de moyens. Il fallait réaliser en fonction, il fallait planifier en fonction de moyens disponibles.
Quelle appréhension vous avez entre la période d'avant le gouvernement et la période de gestion du pays avec la sortie du gouvernement et la mise en fonction et la prise des fonctions du gouvernement? Quelle comparaison faites-vous des gestions entre ces deux périodes?
La première chose qu'il faut dire, c'est que la plupart des réalisations, le président les a faites sous le gouvernement démissionnaire de Bruno Tshibala. Et c'est là que la plupart de décisions de décrispation ont été prises et beaucoup de réalisations ont été lancées. Et par contre, le gouvernement actuel, évidemment, le gouvernement dit que quand il est arrivé, il n'y avait pas suffisamment d'argent dans le caisse pour continuer avec la même vitesse. Mais on se rend compte qu'il y a moins de réalisations depuis que le gouvernement ici est en place. Et d'ailleurs, sur le plan des libertés publiques, c'est ce que je vous ai dit, il y a une sorte de recul. On voit que les autorisations de manifestation qui étaient délivrées à l'époque de Bruno Tshibala le sont de moins en moins. Et ça, on est en train de se poser la question sur le véritable bilan du gouvernement actuel par rapport au gouvernement démissionnaire de Bruno Tshibala. Mais je crois qu'on va un peu trop vite en besogne, parce que le gouvernement actuel, il faudra le juger sur la base de moyens, mais aussi sur la base du temps. Il n'a pas suffisamment de temps pour montrer de quoi il est capable.
Est-ce que ce n'est pas aussi lié aux retombées ou aux conséquences de cette coalition dans la gestion du pays? Parce que d'aucuns prétendent que avant la sortie du gouvernement, le président, le chef de l'État avait main libre dans la sortie des fonds, pour disponibiliser les fonds. Et avec la sortie du gouvernement, il a un peu les mains liées. Est-ce que c'est pas ça qui freine l'élan?
Vous posez là une véritable question. Est-ce que
cette coalition elle est véritablement sous contrôle du chef de l'État. Étant donné que l'actuel Premier ministre a aussi un mot à dire, et il me semble bien qu'il semble avoir mis la main sur les finances publiques de l'État. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient prévues dans le programme de 100 jours et qui tardent à être réalisées. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que, en fait, toute cette planification de réalisation en termes d'infrastructures devait se faire avec un contrôle sur les finances publiques. Il fallait éviter donc qu'il y ait des dérapages. Et il me semble bien que ces différents programmes, s'ils avaient été tous mis en œuvre aujourd'hui, les finances publiques allaient probablement avoir un coût. Je ne suis pas un financier, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, quand vous lisez de temps en temps les notes de conjoncture de la Banque centrale, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des petites inquiétudes à émettre là-dessus. Il est vrai que la coalition aujourd'hui n'est pas une coalition de cœur, c'est une coalition compliquée, où le chef de l'État a difficile véritablement, et sa dernière sortie le prouve d'ailleurs, hein, sa sortie médiatique, on semble bien croire qu'il y a des ministres qu'il n'arrive pas à maîtriser, et il a aussi une gestion qui me semble assez difficile entre les ministres qui lui obéissent et ceux qui semblent obéir à leur maître du FCC. Il y a là, de mon point de vue, une difficulté certaine.
Et ça présage un éclatement, un effritement de la situation politique au pays.
Alors, nous sommes là devant une grande incertitude. La dernière sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale nous a laissé très perplexes. Généralement, une figure assez modérée, mais qui a fait une sortie qui a surpris beaucoup de gens. Cela laisse bien présager une situation assez incertaine. Difficile à prédire qu'est-ce qui va se passer demain. Si les uns les autres n'arrivent pas à harmoniser leurs vues, nous risquons d'assister à une crise politique.
Parce que vous parlez de l'Assemblée nationale, cela me pousse à vous poser la question par rapport au fonctionnement des institutions de la République. Quelle analyse faites-vous du fonctionnement des institutions de la République depuis leur mise en place?
Ça, c'est une question très très large. Les institutions, quand vous regardez au niveau provincial, on a véritablement l'idée que si ces institutions ne sont pas mieux encadrées, ça sera un chaos. On est encore à la première année, mais il y a autant de gouverneurs qui ont déjà été démis, et donc si ça continue à ces rythmes, on va être dans une situation d'instabilité généralisée. Au niveau national, la grande crainte, c'est évidemment celle d'une coalition qui ne semble pas être sur le bon rail et qui tangue et qui peut, si vous voulez, exposer le pays à une crise. Et vous savez, quand il y a une crise politique, les investisseurs potentiels partent. Et donc, tous, nous allons être dans une situation où notre destin, notre avenir en tant qu'État sera compromis. Il y a là une inquiétude à exprimer si la coalition actuelle n'arrive pas à bien ordonner, à bien définir le comportement coalitionnel.
Le chef de l'État s'est fixé un certain nombre d'objectifs, principalement de la réforme de l'appareil judiciaire. À ce jour, où en sommes-nous selon vous?
Cette réforme ne peut être faite que si, au niveau de la coalition, parce qu'il faut dire que les secteurs du judiciaire n'est pas un secteur cash, c'est plutôt un secteur FCC, il faudra qu'au niveau de la coalition, ils arrivent à se mettre d'accord sur les éléments constitutifs de cette réforme. Et aujourd'hui, la dernière sortie de nos amis de PPRD sur l'affaire de 200 millions peut certainement interpeller beaucoup d'observateurs. Toutes les questions aujourd'hui commencent à tourner autour de la dynamique coalition.
Après l'alternance à la tête de la RDC, le nouveau président de la République a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Une année après, que peut-on dire?
Ça va être difficile. Tant que le chef de l'État n'a pas la maîtrise du domaine de la justice, de pouvoir enclencher la lutte contre,
contre la corruption. Et d'ailleurs, s'il y a une critique qui est adressée aujourd'hui dans le bilan du chef de l'État, il concerne bel et bien la lutte contre la corruption. Ça, c'est un chantier qui est resté entier. Nous n'avons pas vu véritablement de réalisation là-dessus. Comment le chef de l'État entend lutter contre la corruption? Et il n'y a pas véritable. En tout cas, ce chantier ne bouge pas. Il ne bouge pas, cela tient également à l'argument que je viens d'avancer tout à l'heure. Il faudra que cette réforme de la justice se fasse en harmonie entre les différentes composantes de la coalition. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
Malgré la mise sur pied ou la création des agences de lutte contre la corruption, des personnalités nommées pour mener cette lutte contre la corruption, vous estimez que rien n'a encore été fait jusque-là?
Bon, il faudra d'abord voir la fameuse agence en question. Quels sont les textes qui vont la faire fonctionner, de qui sera constituée, donc quel genre de dynamique institutionnelle elle va impulser dans le processus de lutte contre la corruption. Donc tout cela, il ne suffit pas seulement de mettre une agence sur place et de dire qu'on a gagné la lutte contre la corruption. Non, c'est plus compliqué que cela.
Une réalisation qu'on pourrait attribuer au pouvoir actuel de Félix Tshisekedi, c'est sur le plan de l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Est-ce une réussite ou il y a encore des problèmes? C'est un échec, s'il faut comparer. Réussite ou échec selon le professeur Félicien Caroma, en tant qu'observateur de la scène politique, de la gestion du pays, de la RDC?
Alors, le domaine de l'éducation était un domaine qui était caractérisé par un désengagement partiel de l'État, au moins en ce qui concerne le secteur public. Et il faut là distinguer l'éducation primaire et secondaire de l'éducation supérieure universitaire. En ce qui concerne l'éducation au niveau de la base, c'est-à-dire de l'enseignement primaire et secondaire, on semble voir une reprise en main par l'État de ses missions, notamment au travers du processus de gratuité. Alors, il faut dire que c'est un processus. Tout ne va pas se régler aujourd'hui, parce que ce processus va coûter beaucoup d'argent. Donc, je crois que le gouvernement fera en fonction de ce qu'il a entre les mains. Et les autres questions seront réglées au fur et à mesure. Avec le budget et les niveaux de mobilisation des recettes de l'État, je doute que la gratuité, au moins dans sa globalité, il y a un seuil qui pourra être franchi, mais c'est un processus qui prendra du temps. Au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, alors ce n'est pas la même chose. Vous avez là une continuité de la politique qui était jusque-là instaurée, qui est celle du désengagement partiel de l'État. Ce qui fait que les pratiques du genre contribution de parents continuent. Donc là, les étudiants doivent s'entendre avec le professeur pour continuer à prendre en charge une partie des salaires payés au professeur. Vous avez là une option qui a été levée au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Par contre, le désengagement partiel continue au niveau universitaire.
Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui gère le pays, l'alternance est caractérisée par sa prise de fonction. Il a parlé également dans ses projections, dans ses objectifs à atteindre, du problème d'accès à l'eau potable et à l'électricité. 12 mois après, qu'a-t-il fait?
C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a là beaucoup trop de promesses qui sont faites. Il ne semble pas y avoir une focalisation sur 3 ou 4 questions précises. Et il est très difficile de résoudre l'ensemble des problèmes en une fois. Au Sénégal, par exemple, nous avons eu un bilan sur la question énergétique. Ils ont doublé leur capacité en moins de 5 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal exporte l'électricité. Alors, nous ne sommes pas un petit pays comme le Sénégal. On est beaucoup plus grand. Ce qu'on pense, c'est que certainement des planifications qui ont été envisagées. Le taux d'électrification était, je crois, de 9% ou 10%. L'accès à l'eau, le taux est également très très faible. Je ne connais pas les chiffres actuels. Et il faut des investissements massifs pour que on ait des résultats. Je crois que ce n'est pas au bout d'une année de mandat que on pourra déjà demander à Félix Tshisekedi de présenter le bilan en ce qui concerne la question d'accès à l'eau, à l'électricité. Non, il faut beaucoup d'investissements parce que pour réaliser un barrage, le barrage on le réalise après au moins 2-3 ans et ce n'est qu'après qu'il peut commencer à fournir l'électricité. Et je crois qu'il y a des questions pour lesquelles une année c'est trop peu pour déjà donner des bilans.
Et sur le plan infrastructurel?
Je venais de dire que le programme des 100 jours, c'était un programme qui était bâti essentiellement sur la réhabilitation des infrastructures et sur la construction de nouvelles infrastructures. On a remarqué qu'il y a certains projets qui n'ont pas abouti ou qui prennent du temps, notamment le projet Saut-de-Mouton. Et donc, l'une des raisons qui nous est avancée, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de moyens pour que l'État continue à mettre de l'argent dans ce projet qui sont très coûteux. Et donc, ça, c'est un exemple. Donc, il y a également d'autres exemples de projets de 100 jours, donc du programme de 100 jours, qui n'ont pas été réalisés ou qui n'ont pas connu un début de réalisation.
Professeur Félicien Kabamba, en une année, sur quoi on devait voir Félix Tshisekedi après cette alternance? Qu'est-ce qu'on devait voir changer au pays qui n'a pas changé?
C'est une question provocatrice, celle-là. En fait, quand il accède au pouvoir, comme il était un opposant et qu'il s'est battu pour la démocratie, principalement, l'un des chantiers auxquels il s'est attaqué, c'était les libertés publiques. Et peut-être qu'il faut là inviter le chef de l'État à revenir sur, plutôt à bien regarder les premières décisions qu'il a prises. L'interdiction de manifestation n'est pas une bonne chose. Par contre, l'élan qu'il avait pris était très bon et il faut qu'il continue sur cet élan-là. Mais l'un des chantiers phares, parce que c'est quand vous posez la question à chaque Congolais sur quelle est la priorité pour le Congolais aujourd'hui, on vous dira que c'est la sécurité. Comment construire des infrastructures quand il y a des Congolais qui meurent à l'est du pays? Donc la sécurité est le chantier phare et le tout premier chantier du chef de l'État. La priorité, c'est celle-là. Il faut arriver à donner la sécurité à chaque Congolais. Je voudrais ici apprécier le travail bâti, réalisé par nos forces armées à l'est du pays. Mais il faut continuer pour que chaque Congolais se sente chez lui et en sécurité quand il est ici et non quand il est à l'extérieur. Ce chantier-là, il est encore là. Il y a beaucoup de choses à réaliser et je crois que ce qui est en train de se faire est à féliciter. Alors, qu'est-ce qui a été fait et qui n'a pas été fait? Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été faites. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le mandat présidentiel prend 5 ans. Il y a des choses qu'on peut choisir de faire à la première année, il y a des choses qu'on choisit de faire à la deuxième, à la troisième, tout comme à la cinquième année. Donc c'est pourquoi tout est question de planification. Et quand j'essaye de voir ce qui a été réalisé pendant la première année, en termes de décision, en termes de réhabilitation, en termes de construction, je dis, c'est un bon début. Mais la population ou le peuple congolais attend davantage de nouveaux chefs.
Quand nous parlons d'alternance, on voit un pouvoir à un autre. On n'a pas abordé l'aspect de l'ancien dirigeant Joseph Kabila, qui a passé les commandes du pays à Félix Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, après une année après, comment évaluez-vous la collaboration entre le président sortant et l'actuel?
D'abord, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est quand même le fait que l'ancien chef de l'État n'est pas inquiété aujourd'hui. Si vous comparez notre situation avec celle de l'Angola, et vous allez voir que la famille de l'ancien chef de l'État est aujourd'hui en exil, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je voudrais là dire qu'il est toujours possible de vivre après le pouvoir et encourager les Congolais qui accèdent au pouvoir à mieux se comporter quand ils sont au pouvoir, parce que demain, c'est quelqu'un d'autre qui sera là où ils sont assis. Et quand j'essaye aujourd'hui d'analyser les rapports qui existent entre l'ancien et le nouveau chef, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Entre les deux, ils avaient l'habitude de se rencontrer. Difficile pour moi de dire aujourd'hui s'ils s'appellent ou s'ils ne s'appellent pas, ou s'ils continuent à se rencontrer. Mais ce qui est vrai, c'est que leur coalition ne semble pas mieux fonctionner. Or, ce sont les deux. C'est par la volonté des deux que la coalition est là. Les deux ont intérêt à redonner un nouveau souffle à la coalition. C'est de cette manière-là qu'ils peuvent aider le pays. Il me semble bien que la coalition a atteint un niveau assez inquiétant. Mais il n'y a que ceux deux qui peuvent redonner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à la coalition. S'ils ne le font pas, la crise va s'installer.
Pour terminer, professeur Félicien Kabamba, l'alternance en République démocratique du Congo, est-ce une réussite au jour d'aujourd'hui?
Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de pays africains, il est très difficile de voir une élection être organisée et être remportée par un opposant, surtout en Afrique centrale. C'est vrai que nous avons connu une élection qui a été contestée par l'opposition, par l'Église catholique, par certains membres de la société civile. Et finalement, on a affaire à une personne qui n'est pas du pouvoir, qui gagne l'élection et qui vient avec une nouvelle dynamique, un nouveau type de gestion de l'État. Alors, du point de vue de la vision, de notre vision de la démocratie, ce n'est pas un recul, c'est une avancée. Les élections, le processus électoral devra être amélioré avec le temps. On ne cherchait pas à organiser une élection comme le font les Américains, les Britanniques. Non, nous sommes la RDC, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre, et donc le processus électoral, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, à améliorer les processus pour que prochainement, nous puissions avoir les meilleurs processus possibles. Mais cela prendra du temps. Et pour le moment, nous avons affaire à une alternance, parce que l'ancien chef a passé la main à l'actuel, qui n'était pas de son camp et qui vient de l'opposition. Il me semble bien que c'est une grande avancée. Maintenant, il faudra bâtir sur ça. Bâtir sur ça, est-ce que c'est en termes de la coalition FCC-CACH ou il faudra entrevoir autre chose? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra discuter.
Professeur Félicien Kabamba, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que Billy Lutumba recevait dans cette émission le professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde, réalisation et coordination. Kéline Kouté, vous avez suivi Billy Yvon Lutumba qui était à la présentation de cette émission. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.